Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, Jeux olympiques de Paris 2024, le premier athlète congolais à entrer en lice vient d'être éliminé ce samedi 27 juillet. Le judoka Arnold Kisoka a perdu devant l'Israélien Yam Volzak en éliminatoire de 16e de finale dans la catégorie des 60 kilos. Plusieurs agents et fonctionnaires des entreprises de l'État réclament leur arriéré des salaires de plusieurs mois. Cette question a été évoquée au cours du Conseil des ministres d'hier vendredi par le chef de l'État. L'invité de ce midi est le coordinateur de la coopérative agricole Bilanga ya Betu, Dr Serge Mbaye, parle de l'organisation depuis lundi dernier de la deuxième édition du marché agricole ici à Kinshasa. Bonjour à tous. Le judoka Arnold Kisoka, premier athlète congolais à entrer en lice aux Jeux olympiques de Paris ce samedi 27 juillet, dans la matinée, vient d'être éliminé de la compétition. Il a perdu devant l'Israélien Yam Volzak en éliminatoire de 16e de finale dans la catégorie des 60 kilos. Par ailleurs, voici les programmes des interventions de tous les athlètes de la RDC à Paris. Jacques-Yves Molima.
D'autres Congolais vont entrer en compétition dans quelques jours. Le 30 juillet, pour sa deuxième participation aux Jeux Olympiques, la boxeuse congolaise Marcela Sakobi sera face à l'Ouzbek Sitora Turdibekova en 16e de finale. Dans la même discipline, le 1er août, Brigitte Mbabi, exemptée au premier tour, affrontera en 8e de finale la Thaïlandaise Jangem Suanafeg chez les 66 kilos. Pour la natation, toujours en date du 1er août, Aristote Ndombe Impelenga va entrer en lice. Ce Congolais qui est placé dans la série 2 va concourir à l'épreuve des 50 mètres de nage libre chez les hommes. Le 3 août, les deux derniers athlètes congolais vont concourir d'abord en natation dans l'épreuve des 50 mètres de nage libre chez les femmes. Miasandi Udivine est logé dans la série 1. Enfin, en athlétisme, le Congolais Dominique Lasconi Moulamba va concourir dans l'épreuve du course des 100 mètres chez les hommes.
À Kinshasa, plusieurs agents et fonctionnaires des entreprises de l'État affirment ne pas toujours avoir perçu leur salaire. Hier vendredi matin, plusieurs hommes et femmes des différentes entreprises, les retraités, tout comme les nouvelles unités, s'étaient amassés devant une banque. Ils espéraient, selon eux, percevoir des arriérés de plusieurs mois de salaires impayés. Ils disent déplorer cette situation qui dure depuis quelques années déjà. Ils se sont exprimés au micro d'Arcel Kajourou.
Il y a beaucoup de mois, nous avons des arriérés. Hein. On a des 40 mois des arriérés. Ces mois, on nous paye le mois de mars et avril. Et il arrive des fois, une année, ça a 12 mois, nous on nous paye deux fois ça. On paye peut-être deux ou trois fois à la limite, mais pas 4-5 mois, non. En tout cas, ça peut arriver une année comme ça, il y a des intervalles à telle enseigne qu'on ne peut pas comprendre. Et on est tellement habitué à ça, des fois on nous paye deux fois l'an et puis c'est tout. Mais trois fois la limite.
Bon, en fait, nous sommes venus toucher le peu qu'on nous a donné. L'État qui nous a fait grâce, il nous a récompensé avec le peu de deux mois. C'est comme ça que nous sommes venus toucher. Et nous sommes encore les nouveaux venus. On a au moins 12 mois d'arriéré. L'année 2024, nous avons touché que trois payes. À part ça, la grâce présidentielle, ça fait au moins 4 au total. L'entreprise en soi, à chaque fois, ils disent que non. Ils sont en train de faire leur mieux, mais on attend.
Entre-temps, la question de la paye des agents et fonctionnaires de l'État dans les délais a été évoquée au cours du Conseil des ministres d'hier vendredi par le chef de l'État dans sa communication. Parmi les pesanteurs qui continuent à mettre à mal la quiétude des fonctionnaires pendant la dite opération, il y a notamment la qualité très inquiétante de services bancaires et l'accès aux facilités bancaires, a-t-il dit. Et cela comme mise en exergue lors du 4e atelier de la bancarisation organisé en novembre dernier. Félix-Antoine Tshisekedi a rappelé qu'il est impératif de savoir que la bancarisation ne doit pas s'ériger en occasion supplémentaire des supplices pour les fonctionnaires qui doivent percevoir leur salaire à temps. On écoute quelques recommandations formulées par le président de la République dans ses comptes rendus du gouvernement lu par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya. Extrait proposé par Alain Hurung.
Partant des recommandations susévoquées et face à la persistance de problèmes soulignés, le président de la République a chargé à nouveau le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, sous la supervision de la première ministre en collaboration avec les ministres des budgets et des finances et la participation des autres parties prenantes, y compris la Banque centrale et son cabinet, de proposer une feuille de route précise, assortie des propositions concrètes devant définitivement répondre à toutes ces préoccupations. En l'occurrence, améliorer la qualité des services au niveau de banque commerciale en faveur des agents et fonctionnaires de l'État avec à la clé l'assouplissement de formalités d'accès aux droits, de réaliser la réaffectation des effectifs et leur repartition suivant une cartographie idoine. 3. Développer, s'il le sait, des nouveaux mécanismes et des paiements tels que les recours au mobile money afin de garantir la proximité et l'accessibilité rapide aux droits, principalement dans les zones d'accès difficiles.
En Ituri, la Fédération des entreprises du Congo, FEC Ituri, s'oppose à tout opérateur économique qui y apporterait son soutien à un quelconque mouvement insurrectionnel pour déstabiliser cette province. Cette structure l'a dit vendredi au cours d'une rencontre sécuritaire et socio-économique avec les gouverneurs des provinces. C'est après des rumeurs qui circulaient sur un appui de quelques commerçants aux jeunes qui rejoindraient les M23. Pour la FEC Ituri, l'heure est à la consolidation des acquis des paix et du développement imprimé par les autorités provinciales. Martial Kizabiamungu.
Au cours de cette rencontre, la Fédération des entreprises du Congo, FEC Ituri, a manifesté sa détermination d'accompagner les autorités militaires contre l'agression dont est victime la RDC par les Rwandais à travers les M23. Son président, Loné Mamoukoua, décourage tout opérateur économique qui a l'ambition d'appuyer toute entreprise criminelle pour la déstabilisation de la RDC en général et de l'Ituri en particulier. Il les appelle au sens patriotique.
Nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit agressé par les M23. Nous devons décourager ceux-là qui ont même l'ambition de suivre de tels agissements parce que nous devons aimer notre pays. Nous n'avons que seul pays, notre patrie, c'est la RDC.
À la même occasion, la Fédération des entreprises du Congo, FEC Ituri, a sollicité les concours du gouverneur des provinces pour l'asphaltage de la route nationale numéro 27 Bouya-Goli ainsi que d'autres acteurs de la ville de Bounia par l'entreprise Mogabao, tout en les promettant de transmettre leur doléance au gouvernement centrale. L'autorité provinciale, le lieutenant général Johnny Louboin Kachama, encourage les opérateurs économiques à la culture fiscale pour donner au gouvernement les moyens conséquents pour le développement de l'Ituri. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans le territoire des Kabare, un projet de textile design a vu le jour à Kachoucha dans le groupement des Miti. L'inauguration a eu lieu ce 26 juillet au centre de formation de l'ASBEL Jenga Tumaini, une organisation qui est dans l'éducation et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Ce projet a été financé par le gouvernement allemand à hauteur de 75 000 $. C'est donc un projet générateur de revenus pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes. Rachel Kiesembangu était à Kachoucha. Voici son reportage.
Jenga Tumaini Design Kivu proposera des services de couture industrielle, imprimerie textile sur toute surface plate et customisation. Cela dans le but non seulement d'autonomiser les femmes et les jeunes, mais aussi de répondre aux besoins financiers du centre de formation Jenga Tumaini. Marie-Rose Iragui, responsable de ce projet.
Je demanderai à la population de Bukavu de soutenir ces projets parce qu'elle est non seulement importante pour nous, ici à Kachoucha, pour aider l'autonomisation de la population locale, mais aussi elle pourrait nous permettre d'ouvrir encore plus d'opportunités d'emploi aux jeunes de Bukavu et d'ailleurs.
Ce qu'encourage l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC qui a assisté à cette inauguration, Ingo Herbert.
Mettre en œuvre des projets en RDC, il faut le dire aussi, ce n'est pas facile. C'est vraiment l'engagement personnel des gens qui s'engagent, qu'ils veulent faire un impact, créer d'emplois. Et je crois que la communauté des Kachoucha, pour eux, c'est vraiment un grand progrès.
Signalons que Jenga Tumaini a en son sein une école, un centre de formation, une académie de basketball, une aire de jeux, un projet de pisciculture et celui de textile. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Dans les territoires de Beni, un retour progressif de la population est observé dans la localité de Bassoa-Galoubena. C'est à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni. Il y a deux mois, des rebelles des ZDF ont attaqué certains villages de cette entité, faisant de nombreuses victimes et poussant la population à se déplacer massivement. Les retours s'expliquent par les déploiements il y a trois semaines des forces conjointes FRDC-UPDF dans la région. C'est ce qu'affirme Tchétché Kambale Moussoubao Aliami, président du comité local de la jeunesse. Il est au téléphone de Marc Marofimbo.
La population s'y est déjà retournée. Si on peut le dire à terme de pourcentage, nous sommes maintenant à 70% du retour de la population dans la région. Depuis que les FARDC alors ont été placés dans des positions pour la sécurité de la population, petit à petit la population commence à regagner leur champ. Nous observons maintenant et puis la calmie dans les fins fonds de notre zone. Les activités économiques évoluent et que les marchés, les boutiques sont maintenant à marche dans le groupement Bassoa Madioué, sauf que on peut appeler les gens de bonne volonté venir soutenir et appuyer les victimes des massacres dont leurs maisons ont été incendiées. Il y a des élèves qui ont perdu les outils scolaires, ils ont perdu les parents. Donc ici, nous appelons tous les jeunes de notre région de rester vigilants toujours et d'appuyer notre force armée de la République, mais aussi ne pas intégrer les groupes et forces armées qui sont toujours négatives.
La ville de Goma réunit depuis deux jours plus de 15 000 jeunes venus du Rwanda, du territoire de Kalehe au sud Kivu et des différentes entités du nord Kivu. C'est dans le cadre du 14e forum régional des jeunes du diocèse catholique de Goma. Cette édition tourne autour du thème « La paix, la cohabitation pacifique et les dialogues ». Bernard Nyangi.
À part la crise sécuritaire que traverse le territoire du diocèse catholique de Goma, la jeunesse de la région est aussi confrontée à plusieurs autres crises qui devront être abordées dans ce forum. C'est notamment la crise écologique, la crise économique, la crise du patriotisme, la crise de chômage, a dit Monseigneur Willy Ngumbi, l'évêque du diocèse catholique de Goma. C'était lors de la catéchèse et messe d'ouverture hier jeudi, dans l'enceinte de la paroisse catholique Notre-Dame du Mont-Carmel, de cette 14e édition du forum régional des jeunes pour la paix et la cohabitation pacifique. Le prélat catholique a toutefois exhorté la jeunesse à ne pas avoir peur. Réjouis de voir les jeunes de différentes cultures, tribus et religions se rencontrer pour débattre sur ce thème de la paix, cohabitation pacifique et développement dans ce contexte où la province compte des milliers, voire des millions de déplacés, y compris des jeunes, l'évêque estime que seule la fraternité et la solidarité les aideront à s'en sortir. Des enseignements, catéchèses et activités culturelles sont au rendez-vous durant les quatre jours que prendra ce forum qui se clôture dimanche 28 juillet. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Restons au nord Kivu, où la conservation et protection des forêts des communautés locales en territoire de Walikale, c'est la thématique des échanges de deux jours organisés par la société civile locale depuis ce vendredi au chef-lieu du territoire. L'objectif pour la société civile est d'amener toutes les couches de la population à contribuer à la protection des forêts communautaires pour l'intérêt national et international. Fiston Misona, président de cette structure, a été joint par Sifa Maguru.
L'objectif global de cette activité est de vulgariser le processus d'élaboration de la stratégie nationale de la conservation de la nature en dehors des aires protégées en République démocratique du Congo, où les acteurs de la société civile Force Vive de Walikale seront outillés sur l'importance de la conservation et la protection des forêts des communautés locales. L'importance pour nous n'est rien d'autre que conscientiser, informer, mobiliser toutes les couches de la communauté et surtout ici de la société civile, de tous les noyaux du territoire de Walikale, d'être outillés à la matière, d'être informés à la matière sur l'importance et l'objectif et l'intérêt sur la conservation et la protection des forêts, des communautés locales et aussi des aires protégées en République démocratique du Congo.
Une cinquantaine d'acteurs locaux, toutes tendances confondues, prennent part à ces assises organisées en partenariat avec les ONG environnementales, entre autres Jan Fossey Gorilla, FAN et Anapac RDC. Dans la province du Tanganyika, l'ASBL belge Mon Congo vole au secours des enfants en conflit avec la loi qui sont détenus à la cellule spéciale pour mineurs attachée à la prison centrale des Kalemie. En partenariat avec l'organisation Enfants sans frontières RDC, cette ASBL a distribué ce vendredi des babouches, des matelas, un poste téléviseur et de la nourriture à ses enfants. Les points avec Paulin Munanga.
Pour le président de l'organisation Enfants sans frontières, cette action entre dans le cadre du projet alimentaire en faveur des enfants en conflit avec la loi et leur insertion socio-économique dans les territoires de Kalemie, Kabalo et Kongolo. Les bénéficiaires de cette assistance sont 24 jeunes, dont deux filles. Le responsable de l'ASBL Mon Congo rassure les jeunes détenus du soutien permanent de son association et espère qu'une fois libérés, ces jeunes vont changer et devenir des bons citoyens. Par ailleurs, le directeur des Enfants sans frontières RDC a fait savoir que grâce à l'appui de la clinique juridique de son organisation, plusieurs enfants en conflit avec la loi détenus à la prison centrale de Kalemie sont remis en liberté. Alima Siwalonga.
Comme il y a un nouveau président du tribunal pour enfants, le président Mouyaya, quand il est arrivé, il a un peu accéléré le jugement. Nous avons aussi une clinique juridique avec nos défenseurs judiciaires et avocats. Présentement, il y a maintenant 24 enfants qui sont encore là sur 48.
L'ASBL Mon Congo se rend ce samedi dans les territoires des Kongolo, province du Tanganyika. Pour les mêmes activités, signale le directeur des Enfants sans frontières RDC, Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Jeux olympiques 2024, les athlètes africains présents sur les bateaux s'émerveillent avec l'ouverture. Les défilés des superlatifs pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, 116 bateaux, 6 km de trajet, 300 000 spectateurs, mais aussi des zones d'écale au point d'embarquement en amont de la cérémonie. Dans un ponton ivoirien, djiboutiens, égyptiens et congolais de RDC sont montés à bord avec des nouveaux camarades danois, coréens ou dominicains pour fêter l'ouverture de l'événement.
L'invité.
La mise en valeur des produits locaux et naturels est possible à Kinshasa. C'est ce que fait la coopérative agricole Bilanga ya Betu, qui signifie « notre champ ». Elle est initiée par des entrepreneurs congolais de différents métiers, mais passionnés par l'agriculture. C'est dans ce cadre qu'elle tient la deuxième édition de son marché agricole. Il a débuté ce lundi 22 juillet au Stade Albert, dans la commune de la Gombe, et se termine ce dimanche 28 juillet. Nous recevons comme invité le docteur Serge Mbaye, qui est le coordinateur de cette coopérative. Il s'entretient avec Arcel Kajourou et Miradine Fouengui.
Bonjour docteur Serge. Avant toute chose, on aimerait savoir d'où est venue l'idée de cette coopérative.
Bonjour madame, merci. Nous avons créé la coopérative agricole Bilanga ya Betu parce que nous étions dans un contexte triste, morose, qui faisait que nous dépendions entièrement, totalement, du point de vue alimentaire, de tout ce qui venait de l'extérieur. Nous étions un groupe de professionnels, architectes, juristes, enseignants, dans un groupe de réflexion, et malheureusement, nous avions des terres. Presque personne ne produisait rien. Quand nous nous asseyions à table, c'était pour manger des aliments importés. Et au regard de l'immense potentiel agronomique de notre pays, il était juste, madame, inacceptable que l'on puisse continuer à vivre de la sorte. Donc c'est un engagement que nous avons pris en 2017.
Quel est le bilan par rapport à la première et à la deuxième édition?
D'abord, la première édition, madame, elle a eu lieu en juillet 2021 et dans un contexte très compliqué, c'était la pandémie de Covid-19. Et en pleine troisième vague de Covid-19, nous avions raté toutes nos campagnes. D'abord parce que la plupart des intrants que nous utilisons sont importés. Les frontières nationales étaient fermées. Les frontières régionales n'étaient pas très accessibles. Il y avait beaucoup de barrières et tout. Donc nous n'avons pas su travailler. Mais nous l'avions organisé parce qu'il fallait remonter le moral des acteurs agricoles. Mais vous voyez maintenant, la deuxième édition s'organise en dehors de toutes ces contraintes. Il y a beaucoup plus de participants. et même une participation internationale. Le Congo-Brazzaville est représenté, la République centrafricaine, des provinces congolaises, il y a le Lualaba, il y a une délégation du Lualaba, un délégué de Lubumbashi. Donc nous avons des conférences, des tables rondes qui sont très édifiant. Bref, nous pensons avoir progressé par rapport à la première édition qui s'est déroulée dans le contexte que je viens de décrire.
Et quels sont vos objectifs en organisant ces programmes?
Nos objectifs, nous devons être conscients des enjeux majeurs autour des questions agricoles, autour des problèmes alimentaires de notre époque. Il faut faire une lecture globale. Nous sommes au temps de la mondialisation et c'est comme ça qu'il faut comprendre ces problèmes. Nous ne pouvons pas parler de nourrir la RDC sans tenir compte du reste de la planète. Nous devons comprendre les différents systèmes de production, les différents systèmes d'approvisionnement, où sont nos difficultés de manière pratique et comment les contourner.
Avez-vous ou souhaitez-vous l'appui du gouvernement dans ces secteurs puisque cela permet à promouvoir aussi l'économie du pays?
L'appui du gouvernement n'est pas souhaité. L'appui du gouvernement devrait être spontané. Nous sommes une organisation connue sur le plan national et international. Nous avons été associés aux concertations de Madame la Première Ministre. Nous attendons du gouvernement une franche collaboration. Il faut soutenir de manière sincère ceux qui sont sur terrain, ceux qui œuvrent déjà dans le secteur, dans la profession. Malheureusement, les appuis, les soutiens ont tendance à se diriger vers d'autres personnes que les vrais acteurs du secteur.
D'accord. Alors, la dernière question, c'est y a-t-il des retours de ces entrepreneurs par rapport aux expositions ou aux conférences qui sont tenues?
Bien sûr, madame, nous sommes très encouragés malgré les difficultés parce que les bénéficiaires en tirent profit. Les bénéficiaires, c'est-à-dire les participants, les différents partenaires, ils sont contents et ils formulent des propositions. Ils nous appellent, ils nous invitent à assurer la durabilité de cette initiative.
Ok, d'accord, docteur Serge. La Radio Capi vous remercie.
Je vous remercie, madame.
Et c'est la fin de cette édition des Vos Nouvelles sur Radio Capi. Debs Vita a assuré sa mise en onde sous la supervision et coordination de Alain Irung Moshinj et Jacques-Yves Molima. À la présentation, Patience Ngalou Lambombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.